129.
Boulevard 102.1.
Oui, madame. 418-971-1021, 418-971-1021. Bon lundi, tout le monde. Merci de débuter votre semaine avec nous autres. Vous êtes de plus en plus à communiquer avec nous par texto et on l'apprécie, que ce soit pour vos commentaires ou encore pour nous rapporter de l'information. Continuez de le faire. 418-971-1021. Gros show aujourd'hui que Jeff nous a concocté. Je ne sais pas si on va réussir à passer au travers de tout ça, mais Nick Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, va être avec nous vers entour de 9h ce matin pour nous parler du budget qui va sortir mercredi. Hey, je lisais ce matin, Jeff, la CAQ, en 8 ans, va nous avoir endettés de 100 milliards de dollars.
100 milliards?
Oui.
Mais, okay. Mais c'était le parti de l'économie?
Jugez-moi à moyenne du bâton.
Ouais, c'est ça, moyenne au bâton. Hey, la moyenne au bâton. Nick va nous parler aussi, c'est un excellent texte de Michel Girard
oui.
dans le Journal de Québec cette fin de semaine. Ces primes d'assurance-là qui vont monter, qui vont nous coûter plus cher.
Exact.
Une petite passe dans le dos des contribuables.
Passe pour mettre de l'argent dans les poches du gouvernement du Québec. Yvan Clich aussi, qui est fellow et spécialiste en énergie, va être avec nous pour nous parler, oui, du prix de l'essence. Pourquoi ça monte? Est-ce qu'on prévoit que ça monte encore plus? Les réserves stratégiques, je ne sais pas si tu as vu le tableau que j'ai mis sur les réseaux sociaux, mais énormément de pays ont des réserves stratégiques. Puis nous, au Québec, on a décidé que la réserve stratégique d'or, entre autres, Justin Trudeau a dit qu'on n'avait pas besoin de ça. Réserve stratégique de pétrole, comme on est un gros producteur de pétrole au Canada, Justin Trudeau a dit pas besoin de ça. Mais les États-Unis ont leur réserve stratégique. Donc, il va nous expliquer pourquoi nous autres, on n'a pas de réserve stratégique qui ferait en sorte, un peu comme le sirop d'érable, là, que quand il manque de sirop d'érable, ben on en rajoute un peu plus sur le marché avec cette réserve stratégique-là. Puis quand il y en a trop, ben pour pas que les prix descendent trop, Jeff, ben on emmagasine encore plus dans des barils du sirop d'érable.
C'est ça.
Fait est-ce qu'on pourrait faire la même chose au Canada, comme un peu le sirop d'érable au Québec? Monsieur Clich répondra à ça. Mathias Turcotte va être avec nous pour nous parler, entre autres, de ce qui s'est passé à Lac-et-Chemin avec un arbitre qui s'est fait attaquer par un père qui était mécontent d'une décision qui avait été prise à l'égard de son fils. Son fils qui joue Junior D. Fait qu'on s'entend que c'est pas McLean Celebrini.
Non, 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 Junior 2, les gars sont là pour s'amuser. Là.
Fait que le pire qui aurait pu arriver, c'est un 2 minutes. c'est quoi ça? Après ça, ça fait pas grand changement?
Non, c'est non, ça. C'est ça. Ça change rien dans la vie du kid.
Finalement, le monsieur va se ramasser avec un dossier criminel, doit se sentir un peu cheap. Il va parler aussi du Parti québécois qui a présenté une candidature dans Louis Hébert. C'est important de vous dire que c'est pas elle nécessairement qui va se présenter dans Louis Hébert, mais c'est une des candidate qui voudrait se présenter aux élections sous la bannière du Parti québécois.
Oui, parce qu'on avait vu ça avec Québec solidaire, hein, souvenez-vous, lors des élections partielles à Jean Talon.
Oui.
On avait tenté de pousser une candidate, puis c'est finalement Olivier, là, je viens de mémoire, je pense que c'était Bolduc, ça se peut-tu son nom de famille, qui avait passé auprès des membres. Donc le PQ fait la même chose. On dit « Hey, c'est cette candidate-là, nous, qu'on veut ». Mais les membres dans la circonscription de Louis Hébert pourraient choisir quelqu'un.
On s'entend que normalement, c'est une formalité après ça.
Normalement.
Mais ça peut arriver une surprise.
Donc, plein de choses à vous jaser aujourd'hui. 6h33, les news.
Les news. 102.1.
En ce 16 mars 2026, tu nous apprends à quoi ce matin?
Un appel jugé menaçant a mené à l'évacuation de l'aéroport international Jean Lesage de Québec hier soir. C'est un peu après 22h que le 911 a reçu l'appel en question. Les policiers qui se sont rapidement déplacés pour sécuriser les lieux, faire les vérifications nécessaires. Un périmètre a été érigé près du terminal principal et des vérifications ont été réalisées pour un objet qui pourrait être suspect, c'est ce qu'on nous disait. Et un peu avant 3h du matin, le SPVQ a annoncé que l'accès à l'aéroport est à nouveau accessible. Par communiqué, il est indiqué qu'il s'avère que les vérifications faites sur l'objet suspect sont non fondées. L'enquête se poursuit pour identifier l'origine de l'appel ainsi que l'auteur ou les auteurs de celui-ci. La vidéo qui circule beaucoup, on a parlé en introduction, là, un arbitre qui a été agressé par un parent après un match de hockey junior D disputé samedi du côté de la Lac-et-Chemin. On peut voir les arbitres quitter la patinoire avec un homme pousse assez violemment l'un d'eux. Il y a altercation avec les autres arbitre qui s'en est suivi. L'homme de 39 ans qui a attaqué les arbitres qui a par la suite été arrêté pour voie de fait avant d'être libéré sous promesse de comparaître. La victime qui a subi une blessure au niveau de l'épaule. Le Bureau des enquêtes indépendantes a ouvert une enquête après la mort d'un homme survenu samedi soir lors d'une intervention policière à Saint-Raphaël dans la région de Bellechasse. Les policiers de la SQ sont intervenus autour de 18h à la suite d'un appel au 911 concernant un homme qui circulait dans les rues qui aurait été armé. À leur arrivée, il aurait localisé à son domicile et aurait établi un périmètre de sécurité. L'homme qui serait sorti de chez lui avec une arme à feu, puis c'est à ce moment-là qu'un policier aurait ouvert le feu. Le décès qui a été constaté à l'hôpital, la SQ qui n'a pas commenté. Plus de 5 millions de dollars ont été dépensés par la Ville de Québec en publicité pour le projet de tramway. C'est ce que révèle une réponse à une demande d'accès à l'information formulée par Le Soleil. Il faut dire que le rythme a beaucoup ralenti là, depuis la fin de l'année 2023. En 2024, ça avait été moins de 7 000 dollars qui avaient été engagés. 2025, autour de 13 000. Pour 2025, on est déjà monté aux alentours de 20 000 dollars. Mais à titre comparatif, pour 2020, pour 2022, c'est 1,6 million par année qui avait été dépensé en publicité. À noter que la CDPQ Infra, de son côté, dit avoir dépensé aucune somme à des activités de marketing ou de rayonnement pour le projet. Ce qu'on vous parle, ce qu'on vous donne comme chiffre, c'est vraiment ce que la ville a dépensé en tant que telle. Le maire de Québec, Bruno Marchand, d'ailleurs, qui s'envole ce matin pour l'Alberta pour une mission de 5 jours accompagné d'une délégation d'une quinzaine de personnes. Le voyage qui va le mener notamment à Edmonton et Calgary doit rencontrer là, dans les prochaines heures le maire d'Edmonton, Andrew Knack. Les discussions qui porteront sur plusieurs sujets, mais on veut vraiment tirer les meilleures pratiques en vue des travaux pour le projet de tramway. Là, c'est un des buts principaux.
Ouais, on parle de planification urbaine, d'habitation. On parle aussi d'itinérance, de sécurité, de vitalité des centres-villes. Il va être là jusqu'au 20 mars, ce qu'on nous mentionne. Puis en fin de semaine, là, c'est rare là, que je passe mes fins de semaine à Québec, mais en fin de semaine, j'avais le temps de le faire. Puis en jasant un peu avec les gens, j'ai appris qu'il y avait plein d'endroits à Québec où c'était des routes deux voies, exemple, qu'il y avait une voie qui était fermée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des genres d'embarcles de glace qui avaient été mis à cet endroit-là. Fait qu'on a libéré les trottoirs, ce qu'on doit faire, surtout dans le Vieux-Québec. Ouais. Entre autres, sur Champlain, en face du Cochon d'Inde, il y a une courbe. Là.
Oui, oui.
Il y a deux voies. Bien, on a libéré les trottoirs, de la glace qu'il y avait sur les trottoirs. On a envoyé ça sur la voie de droite, ce qui fait en sorte qu'il y avait juste la voie de gauche qui était disponible pour toute la fin de semaine.
Donc, on n'est pas capable de déglacer la voie de droite quand on fait le trottoir.
Qu'est-ce qui se passe d'exceptionnel la fin de semaine quand il fait beau dans les murs du Vieux-Québec?
Bien, il se passe qu'il y a énormément de touristes, il y a énormément de gens qui vont dans le Vieux-Québec.
Oui. Puis qui amène les touristes en bas?
Qui amène les touristes en bas?
Oui.
Ben,
les autobus.
Les autobus, exactement.
C'est épouvantable.
Peuvent pas se stationner à droite. Ben oui, je viens de comprendre.
Il y avait de la glace.
Oh, Seigneur.
Mais c'est pas grave. On s'en va un voyage dans l'Ouest. Ouais, tout va bien. On va faire de la planification urbaine, alors qu'il n'est pas urbaniste, le maire.
Non.
Il a pu envoyer un urbaniste de la Ville de Québec. Il va parler d'habitation. Y a-tu des connaissances en habitation? Non, il reste dans un condo actuellement. L'itinérance, il n'y en a pas plus. J'aurais envoyé les spécialistes, moi, là-bas.
Oui, exactement.
Des gens. Puis... Mettons Éric Boulay.
Oui.
Éric, tu t'occupes de l'itinérance, toi, de comment...
Va-t'en voir en Alberta.
Vas-y donc. Ça aurait été plus pertinent que le maire. Puis lui, bon, il demande de gérer nos vidanges. Je le sais que c'est plate. On lui demande de gérer notre déneigement. Je le sais que c'est plate. La récupération, je le sais que c'est plate. Mais tu sais quoi? C'est sa job.
Ben c'est ça. Think big quand tu auras réussi à maîtriser la base.
Le Parti québécois qui présentait hier celle qui devrait être la candidate péquiste dans Louis Hébert à Québec. Il s'agit de Chloé Fauchon, une avocate en droit public depuis près de 15 ans. On dit qu'elle a aussi été impliquée au sein de plusieurs organisations de la société civile à titre d'administratrice. C'est un mot difficile, ça, lundi matin. Notamment à titre de présidente du Jeune Barreau de Québec entre 2022 et 2023. Elle pratique présentement au sein du consciencieux de la Ville de Québec. Le PQ qui mentionne qu'elle a axé son expertise autour des questions de droit de l'environnement en publiant de nombreux articles juridiques sur la question. Chloé Fauchon, qui habite la région de Québec depuis 20 ans maintenant, est intéressant de noter que selon les projections de Québec 125, le Parti québécois a plus de 99% des chances de faire élire son candidat dans Louis Hébert. Le premier ministre Mark Carney, qui participait en Norvège à un sommet réunissant les dirigeants de la Suède, de la Finlande, du Danemark et de l'Islande, où les participants ont convenu de renforcer leur coopération face aux tensions géopolitiques croissantes dans l'Arctique. À l'issue de cette rencontre, là, les dirigeants qui ont affirmé leur volonté de défendre la souveraineté dans la région et d'approfondir leurs relations commerciales et d'investissement. Les dirigeants qui ont aussi réaffirmé leur engagement à renforcer la sécurité et la coopération, donc en général dans cette région-là. Donald Trump qui a demandé samedi à la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres pays affectés par la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran d'envoyer des navires pour garder le canal ouvert. Trump qui mentionne sur Truth Social avoir déjà anéanti la totalité des capacités militaires iraniennes, mais il leur est facile d'envoyer un ou deux drones, de larguer une mine ou de tirer un missile à courte portée le long ou à l'intérieur de cette voie navigable, aussi affaiblie soit-il. Il dit donc espérer que les pays mentionnés interviennent et il ajoute que pendant ce temps-là, les États-Unis bombarderont massivement le littoral et continueront de couler les bateaux et navires iraniens. Il dit d'une manière ou d'une autre, nous rétablirons bientôt l'ouverture, la sécurité et la liberté du détroit d'Ormuz.
C'est quand même particulier, Jeff, parce que là, il demande l'aide de l'OTAN là, pour protéger le détroit d'Ormuz. Puis la question n'est plus à savoir si c'était légitime ou pas. Moi, dans mon cas, moi, je pense que c'était légitime, mais il y a des gens qui vont dire « Yann, ça ne l'était pas. C'est comme un peu ce qu'on a vécu en Irak. » C'est correct, vous avez le droit à votre opinion. Mais là, on est dans le trouble.
Ben
parce
oui.
Que le prix du pétrole augmente, ce qui fait en sorte que tout ce qui est autour de nous là, va augmenter.
Exactement.
Pour se faire livrer... Quoi que ce soit, ça va augmenter. La nourriture, ça va augmenter. Puis aux États-Unis, bien, l'inflation a augmenté, puis comme pas pire les dernières semaines.
L'inflation est à 2,7% en 2025. Trump avait dit « Je vais être capable de descendre ça d'un point en 2026. » Mais là, on parle avec le prix du pétrole que l'inflation serait rendue à 4% aux États-Unis.
Exact. Puis on prévoit que si ça continue, ça pourrait monter jusqu'à 7, ce qui serait une catastrophe. Puis, tu sais, on a l'impression que c'est les dirigeants du monde, ces gens-là, puis qui sont entourés des gens les plus intelligents de la planète. Mais nous autres, là, qui sommes dans les estrades, tu dis, mais t'aurais peut-être dû y penser avant. Là.
Ben oui.
Tu sais, au niveau stratégique, là, t'as pas pensé à demander à l'OTAN au départ, regarde, on va probablement aller faire un tour en Iran. Ça serait-il possible pour ce qui est du détroit d'Ormuz de le protéger? On aurait peut-être besoin d'aide.
Exactement.
Mais je pense qu'il s'attendait à un non. Fait que c'est la raison pour laquelle il ne leur en a pas parlé.
Oui, et aussi, je pense qu'il a sous-estimé les capacités de l'Iran à se défendre.
Oui.
Comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine.
Puis, by the way, le nouveau numéro 1 a déjà été blessé. Il s'est fait arracher les jambes.
Ben
s'est
là,
fait arracher à la face.
Ouais, c'est exactement là. Les rumeurs qui circulent, c'est qu'il se serait fait amputer aux deux jambes dans un hôpital en Russie.
En
là.
Russie, oui. C'est une job assez complexe hein, quand tu te fais nommer là-bas en Iran.
Oui. Là, les gens, en tout cas, ben, dans ce qui circule dans les médias, là, les combattants iraniens disent ne pas avoir de nouvelles de. Ce nouveau chef-là.
D'ailleurs, je termine avec ça.
Khamenei fils.
Autre publication de Donald Trump sur Truth Social, où là, il s'attaque aux médias américains pour leur couverture du conflit en Iran. Il écrit que l'Iran est depuis longtemps réputé pour sa maîtrise de la manipulation médiatique et des relations publiques. Militairement inefficace et faible, le pays excelle en revanche dans l'art de diffuser de fausses informations aux médias complaisants, friands de fake news. Donc là, ben, ce que Donald Trump dit, c'est que l'intelligence artificielle est devenue une nouvelle arme de désinformation utilisée avec une redoutable efficacité par l'Iran. Le pays a diffusé de fausses images de bateaux kamikazes tirant sur différents navires, une mise en scène impressionnante de puissance et de férocité. Et il s'agit de pure désinformation destinée à montrer la prétendue force de son armée, pourtant déjà vaincue. Et là, dit que la presse d'extrême gauche le sait parfaitement, mais continue de propager de fausses informations et des mensonges. Et c'est pourquoi son taux d'approbation est si bas et il peut remporter une élection présidentielle haut la main avec seulement 5% d'articles positifs dans la presse.
Je salue François qui nous texte au 418-971-101. Il dit il y a eu une carrière, en parlant du fils de Khamenei, là, qui s'est fait pas mal détruire dans les dernières heures. Il y a eu une carrière de chef plus courte que celle de Pablo Rodriguez.
Right, Pablo n'est pas seul dans l'histoire.
Avant les sports, les amis, avertissement jaune sur le site de Météo aujourd'hui. Pluie verglaçante, c'est ce qu'on nous mentionne. Moins 2 degrés. Toute cette pluie verglaçante-là va se transformer, c'est ce qu'on nous mentionne. Hauteur entre 10 et 15 mm annoncée, des petites rafales à 50 km/h, des averses pour ce soir entre 5 et 10 mm aussi, ce qui fait en sorte qu'il y aura énormément d'eau sur le circuit routier, des températures à la hausse, Jeff! Tu vas te sentir au Mexique pour atteindre un 12 degrés au cours de la nuit.
Wow.
Et demain mardi, ben là, ça rechange encore. Là, ça devient de la neige intermittente avec des rafales demain matin à 80 km/h. Mes gars m'ont dit hier, papa, on aimerait ça avoir une semaine d'école comme la semaine passée. J'ai dit no way. Et là, s'ils entendent dans l'autobus que demain, il y a des rafales à 80 km/h avec de la neige,
ils vont souhaiter.
Ils vont vivre d'espoir.
Oh my God.
Avec le refroidissement éolien de demain, ça va être une température de moins 18 en après-midi. Donc, on passe de plus 12 à moins 18. C'est ça, le Québec. Passage nuageux en soirée avec un minimum de moins 16. Et mercredi, ben là, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 6 degrés. On parle du Canadien. Les sports. Sports. 6,45, Max.
Dur week-end pour le CH avec deux défaites au Centre Bell, respectivement 4-2 samedi face à McLean Celebrini et aux Sharks de San Jose. Et hier, 4-3 face aux Ducks d'Anaheim. Hier, Nick Suzuki, Cole Caulfield et Alex Newhook qui ont marqué, alors que Kirby Duck a quitté le match blessé après toute une mise en échec à son endroit de Jeffrey Vielle. Et là, ce que ça fait, c'est qu'au classement, ça commence à se resserrer beaucoup. Et ceux qui pensent encore que la place du Canadien est acquise pour les séries, je vous invite à aller voir le classement pour vous rendre compte que vraiment pas. Le Canadien qui est en ce moment en série là, à 82 points. L'affaire, c'est que dans l'Est, derrière le Canadien, t'as les Penguins de Pittsburgh à 81 points, tout comme les Islanders. T'as les Bruins et les Wings à 80 points. T'as les Jackets à 79 et t'as les Sénateurs aussi qui sont sur une solide lancée, qui sont à 77 points. Puis pour toutes ces équipes-là, c'est un genre de 3 places en série. Là.
Mm-hmm.
Je vous en ai nommé pas mal plus que 3. Ce sera pas facile pour le Canadien.
Les Bruins qui sont à Montréal, justement, jeudi, gros match de... mardi, devrais-je dire, gros match de 4 points parce que les Bruins, s'ils l'emportent, vont passer devant les Canadiens. Ils ont plus de victoires et plus de victoires en temps régulier.
Je suis en sacrifice. Lane Hudson, c'est tout un joueur de hockey, là, mais sur le but gagnant, c'est lui qui est responsable. Puis ça y arrive souvent d'être, on dirait, hypnotisé par la rondelle plutôt que de checker son homme.
Ouais.
Parce que quand il va dans le coin puis il est seul avec le gars, ça, il n'y a pas de problème, il va ressortir avec la rondelle. Mais hier encore, là, bataille à 4 joueurs, puis il regarde la rondelle, c'est pas le Canadien qui obtient la rondelle, petite passe par derrière, puis ben, Lane avait perdu son gars, puis le gars il s'en va en mettre directement dedans.
Tu parles, Jeff, de match de 4 points, oui, il y a les Bruins demain, mais les 3 prochains matchs du Canadien, c'est littéralement des matchs de 4 points. Bruins, jeudi, c'est les Wings.
Oui.
Samedi, c'est les Islanders.
Mais
c'est 3 équipes directement dans la course contre le Canadien. Puis après ça, oui, t'as un match contre les 15, mais jeudi prochain, c'est les Blue Jackets. Un autre match de 4 points. Fait que les matchs intra-division puis même intra-conférence dans l'Est pour les places wildcard qui vont être nombreux d'ici la fin de l'année. Puis c'est des points que tu vas devoir aller chercher parce que là, depuis le retour là, de la pause des Olympiques, pas super convaincant ce qu'on voit du Canadien. Pendant ce temps-là, pour nos remparts de Québec, défaite de 4-1 hier contre le Phoenix de Sherbrooke au Centre Vidéotron. Reste 2 matchs à la saison régulière, 1 à Québec, 1 à Chicoutimi, 2 fois contre les Saguenayens. Oui. Et dans la classique mondiale de baseball, les États-Unis qui atteignent la finale grâce à une victoire de 2-1 sur la République dominicaine vont affronter le gagnant de l'autre demi-finale qui sera disputée entre l'Italie et le Venezuela.
Il est 6h48, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, écoutez le numéro de téléphone, ça s'en vient.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation.